RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart pour l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. On se retrouve pour cette nouvelle émission de Namur en guerre, Namur quand c'était la guerre. Et aujourd'hui, on va rendre visite à André Rousseau, un monsieur de 91 ans, charmant, qui habite Marche-les-Dames, et qui va nous expliquer un petit peu comment il a vécu le début de la guerre. Et puis, en dernière partie d'émission, il va nous parler un peu des relations qu'il avait avec les soldats américains. Vous verrez, c'est assez surprenant de voir, parce que voilà, on parlera de ça, on parlera de racisme entre les soldats américains blancs et les soldats américains noirs. C'est un sujet dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, c'est assez intéressant, c'est assez surprenant. Et si vous souhaitez également témoigner, eh bien vous pouvez bien entendu nous contacter. On a déjà récolté pas mal de témoignages, mais on continue à en récolter. Comme je vous l'ai déjà dit, on doit en avoir minimum 40, mais si on en a plus, on les accepte avec grand plaisir. La seule condition, c'est que l'histoire se passe dans la commune de Namur, même si elle se passe ailleurs, mais que au moment de la guerre ou quoi, la personne était namuroise, ou bien pas forcément namuroise, mais qu'elle travaillait à Namur. Voilà, il doit y avoir un lien avec le territoire de la commune de Namur. Pour nous contacter, comment faire? Eh bien, sur le site internet www.namuranguerre.be, par email à l'adresse info@namurinc.be, par téléphone au 0400 74 114 909, 0474-114-909, ou éventuellement par courrier ASBL Namur INC, rue Montcrabeau 6, à 5000 Namur. Et je vous laisse tout de suite en compagnie d'André Rousseau.
Dernièrement, je regardais à la télévision une émission, encore une de plus, sur la guerre 40-45 et les préludes à ça. Et alors, je me suis dit, tiens, cette image-là, je l'ai vue au cinéma. Et c'était donc le retour triomphal du premier ministre anglais, Chamberlain, qui revenait de Munich en disant, on a rencontré Hitler, moi et mon collègue français, un certain monsieur Daladier, et vous pouvez être dormir sur vos deux oreilles, braves gens de l'Europe et de choses. Hein, Hitler n'est pas méchant. Bon, tout le monde a poussé un grand ouf. Et je dis, tiens, c'est assez bizarre. J'ai vu cette image, ce retour-là. Je vois Chamberlain qui descend de l'avion. Et j'ai vu ça au cinéma. Et je dis quand même, bon, je me revois un petit peu dans les dates. Au fait, oui, c'est vrai, c'est les accords de Munich, c'est 29 et 30 septembre 1938. J'avais donc 9 ans. Je venais d'avoir 9 ans, puisque je suis né le 24, et j'allais voir quoi? Blanche-Neige, au caméo à Namur. Et avant le grand film, il y avait donc les actualités belges avant. Et de tous qu'il est passé là, j'avais retenu cette image d'un vrai gentleman qui descendait de l'avion avec un chapeau boule, de choses, c'était s'appuyant sur un grand parapluie. Enfin, ça m'était resté dans la tête. Et au fait, lui et son compère, enfin, Daladier, s'étaient fait rouler dans la farine par Hitler et Mussolini, qui avait obtenu, Hitler avait obtenu que ni la France ni l'Angleterre ne bougent, et pour pouvoir annexer le territoire des Sudètes, là-bas, aux confins de la frontière polonaise et tchèque, et où il y avait une importante communauté allemande qui existait. Et Hitler donc avait les mains libres pour annexer le territoire et mettre en dehors tous ceux qui n'étaient pas allemands. C'était une répétition, au fait, de la chose. Mais tout le monde a cru, donc, aux bonnes paroles de Chamberlain et de Daladier. Voilà. On a vu ce que c'était à peu près un an après, hein, puisque en 39, en septembre 39, Hitler, enfin, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Et alors, donc, en septembre 39, c'est la mobilisation en Belgique. Je ne sais pas quelle classe sont rappelées, mais on ne donne plus cours. Moi, naturellement, je suis à l'école primaire avec papa comme instituteur, donc dans le même bâtiment. Je sais qu'on n'a plus cours parce que l'école est occupée par des soldats, une dizaine de soldats, et j'ai vérifié par après, et je sais que je suis certain que c'est des soldats du 19e de ligne qui occupent l'école. Et là, ils occupent l'école en permanence. Ils dorment là, ils mangent là, etc. Tandis que la salle communale est occupée par une dizaine de soldats aussi. C'est le 4e d'artillerie. C'est la majorité de Flamands et Bruxellois. Leur régiment, eux, est installé dans le château. Dans le château d'Arenberg, donc actuel. Et ils ont les canons, là, et les chevaux qui doivent tirer les canons, hein, sont dans les grands hangars qui servent actuellement de garage au commando, juste au bord de la route. Voilà. Mais eux ne viennent que dormir dans la salle communale. Mais je me rappelle, donc, au milieu de la salle de la classe, de l'école, donc, hein, il y a un énorme poêle, colonne, là, vous savez, comme dans le temps. Hein. Et là, il y a un soldat, et c'est un liégeois, en permanence, il met cuire des oignons. Alors on l'avait appelé, le soldat, hein, c'était l'homme aux oignons. Il marchait chaud, voilà. C'est la guerre sans être la guerre. Rien à signaler jusqu'en mai 40. Hein. Jusqu'en mai 40. Ce jour-là de déclaration de guerre, maman me réveille en disant les soldats ont dit que c'était la guerre. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Je ne vois plus maintenant dans ma mémoire exactement ce qui se passe. Mais je sais que l'artillerie s'en va. Où, qu'est-ce qu'ils sont devenus, je n'en sais rien.
On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ses enfants naître, qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume frais repassé, quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer.
C'est le week-end de la Pentecôte. Le 12 mai, c'est un dimanche, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et il est de tradition que les professions de foi, les communions solennelles, comme on disait dans le temps, se fassent à la paroisse ici à Marche-les-Dames, toujours le dimanche de Pentecôte. Alors, je vous dis ça parce que c'était un peu bizarre, mais enfin, j'avais une petite voisine qui était née, donc, la même année que moi, mais au début de l'année. Donc, elle faisait sa communion en 40. Tandis que moi qui étais, c'était un peu comme les rentrées en classe. Hein. À la fin de l'année, j'ai dû faire ma communion en 41. Elle faisait ça en 40. Et elle habitait ici un peu plus haut que chez nous. Et son papa travaillait au chemin de fer, au bas-pré à Salzine. Elle faisait sa communion. Et la grand-mère était une cuisinière hors ligne de cette petite fille-là. Elle avait été cuisinière à Paris pour des riches banquiers dans un hôtel particulier. Et alors, elle se réjouissait de faire un banquet donc pour cette petite fille. Et seulement en rentrant de la messe le matin, on a dit à son papa, si vous voulez évacuer, ce sera un des derniers trains qu'il faut prendre pour partir en France et évacuer. Parce que là, évacuer, c'était terrible. Aussitôt que la guerre a été déclarée, donc le samedi, on a commencé à voir défiler chez nous des gens de Roarté, par exemple, qui disaient en wallon, « Mais vont rappelons-nous ce qu'ils ont fait en 14-18. Il faut venir, mon honneur, rester ici, c'est terrible. » Or, en 14-18, mes parents étaient déjà là, à Marche-les-Dames, et ils ont été très mal conseillés par un frère de maman qui était soldat et qui leur a dit « Vous êtes entre deux forts, Mézeray et Marchovlette. Si j'y étais de vous, je partirais quand même. » Maman étant originaire de Falaisol, elle est retournée là-bas par là. Et au fait, ils sont tombés en pleine bataille de la Sambre, en 14-18. Il y a eu un cousin qui a été fusillé avec les fusillés de Tamines, etc. Alors, papa, en 40, avait juré, je ne bouge plus d'ici, il n'y a rien à faire. Malgré tous les gens qui passaient pour évacuer, etc. Donc voilà que le papa de petite Louise, donc ils sont partis. Et au grand désespoir de la grand-mère, qui restait là avec son mari qui était trop vieux, et qui avait fait donc presque un banquet pour le chose, qui n'ont pas su. Et alors elle nous a dit, je vais vous apporter de la tête de veau en tortue. Et alors, évacuation. Et alors, une obsession, c'était les parachutistes. Parachutistes. Les soldats qui étaient encore ici, voyaient des parachutistes de tous côtés. Il y a, dans la nuit de samedi à dimanche, on a tiré ici en la mitrailleuse, etc., dans le bois, alors qu'il n'y avait absolument rien. Ils voyaient des ombres, je ne sais pas quoi. C'était vraiment une obsession des parachutistes, au point que le mari de la grand-mère faisait comme tous les uns, avait fait son petit potager, et il brûlait les mauvaises herbes qui avaient séché, donc il faisait très beau. Alors, les soldats l'ont arrêté, parce que soi-disant, il faisait des signes de feu, pour les avions allemands. Et c'est papa qui a dû aller discuter avec le colonel qui avait son PC dans une maison ici un peu plus loin, hein, pour dire, mais enfin, c'est complètement ridicule, vous perdez la tête, quoi, hein, tas de choses. Voilà des petites anecdotes, comme ça. Et alors, j'ai assisté le samedi, combat d'avion. Oui, nous étions sur la route de Vergil-Bressé, à gauche, il y a une petite grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Et alors, nous allions dire nos prières là-bas, parce que, bon, hein, 20 ans de guerre. Et alors, il y a eu un combat d'avion juste au-dessus, et on s'est précipité pour se cacher. Il y a un petit pont, parce que la route enjambe le ruisseau, il y a un petit pont pour se cacher en dessous du pont. À la déclaration des... Donc, il y avait ici au village une grosse épicerie dans la côte qui mène à Wartet. Cette épicerie, c'était une épicerie de village, c'est-à-dire qu'on ne pouvait y trouver de tout, aussi bien des chaussures que de la farine, que des confitures, que des semences de betteraves, il y avait de tout. Hein, c'était vraiment ce qu'on dit maintenant une supérette. Mais voilà. Cette épicerie était tenue par deux demoiselles déjà d'un certain âge, demoiselles Deschamps, et qui ont évacué. Et aussitôt partis, les habitants se sont rués dans le magasin et ont commencé à ramasser. Mais dans un désordre, dans une folie vraiment incroyable. À la fin du compte, mes parents nous avaient formellement interdit d'y aller, mais à la fin du compte, ma Marguerite, donc, cette sœur qui est un petit peu la rebelle de la famille, avait dit, mais c'est ridicule, hein, pourquoi n'irait-on pas chercher au moins ce qu'il nous faut comme nourriture, etc., faire des réserves, et puis on notera ce qu'on prend et on payera quand ils reviendront. Et j'étais allé avec. Et là, c'est un spectacle désolant, vraiment. La plupart des aliments étaient en vrac, alors. Hein. Il n'y avait pas tellement d'emballage. Le sucre était dans des grands tiroirs. Hein. En wallon, on appelait ça des crabots. Donc, hein. Et il y avait aussi bien un sac de semences de betteraves éventrées avec le tonneau de sirop de liège qui coulait en terre. C'était... Là, j'ai vu vraiment... On a eu maintenant, avec le Covid, au départ, il y a eu comme ça... Par ce point-là, sans doute, mais une ruée quand même, hein, pour dire on va manquer de ci, de là, etc. Les gens se précipitent. Et bien là aussi, hein, c'était vraiment pénible à voir. On a noté scrupuleusement, maman a noté ce qu'on rapportait, et quand les mademoiselles Deschamps sont rentrées, qu'elles ont vu ça, ben, elles ont remis sur pied quand même, tout doucement, là, avec les restrictions du ravitaillement pendant la guerre. Et maman n'a fait ni une ni deux, il fallait payer tout de suite, hein, parce qu'elle était comme ça. Et alors, les demoiselles Deschamps leur ont dit, mon Dieu, Madame Rousseau, on compte sur le doigt d'une main les gens comme vous qui sont venus nous dire, voilà, on a pris ça. Mais à part ça, vous voyez, je dois dire que ni en 14, ni maintenant en 40-45, notre famille n'a subi aucun... Il n'y a pas eu de mort, ni de blessés, ni rien de tout, quoi. Hein, on a échappé à la chose. Juste qu'il y a un moment quand même assez angoissant, c'est quand on a placardé que les hommes de la classe 40 devaient rejoindre Quiévrain. Mon frère Siméon, qui allait terminer ses études, et en dernière année... à l'école normale à Malone, était de la classe 40. Il était né en 20, donc à 20 ans, il est parti pour Quiévrain. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais pas même un mois, je ne pense pas. Et puis, il est rentré en disant, ben, les Allemands sont arrivés, et puis voilà, c'est
le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
Et maintenant on va faire un petit bond dans le temps et André va nous parler du moment de la libération.
Alors il y a eu des Américains qui sont venus au château aussi, et on, ce qu'on appelle ici maintenant le mess des officiers, un ancien hôtel. Seulement le premier Américain que nous, notre famille, a vu arriver à Marche-les-Dames, en jeep, tout seul, c'était un noir. Voilà. Et il est venu à la maison, il s'appelait Bob. Il était d'Akron, je crois que c'est dans l'Ohio. Et il est revenu avec des copains, des Noirs, bon, ce qui a provoqué une tension formidable avec les Américains blancs qui occupaient le château et le mess des officiers. Et nous avons vécu là des moments assez, assez angoissants, pénibles, où les blancs ne pouvaient absolument pas comprendre comment une famille d'hommes blancs, enfin de Belges, puisse avoir des contacts d'amitié avec des Noirs. On a vécu vraiment l'apartheid là, très très fort. Ils ont fait tout pour embêter notre famille et les Noirs qui nous fréquentaient. Alors nous avons eu des perquisitions sur perquisitions. Ils voulaient savoir exactement l'identité. Et je sais bien, tout à fait, que je me pense à ça comme ça, parfois quand même. Ce Bob-là, vous avez donné une belle grande photo de lui, genre format carte postale, qu'on avait mis sur un petit support, sur la commode dans la maison. Et puis alors, pour ne pas qu'il fasse, comment vais-je dire, un rapport avec... pour ne pas qu'on le voie, voilà. On me l'avait mis en dessous de l'oreiller dans mon lit, pendant la perquisition. Oui, en pleine nuit, ils sont venus perquisitionner dans la maison, tout retourner, la military police, demandée par les blancs, naturellement, des choses. ils ont tagué sur, ils ont écrit sur la maison, ici c'est la maison des Noirs. Jusqu'au moment où il y a eu des échanges de coups de feu avec un Noir qui était venu à la soirée chez nous et qui retournait. Donc il descend et ils étaient à Annus à ce moment-là. Donc ils reprennent là en bas de la petite côte. Nous habitions la grosse maison qui était ici. Il y a une fontaine hein, au bord de la route. Juste il y a un talus comme ça. Et au-dessus du talus, c'est là que nous habitions. Donc alors on descend le petit morceau de la route de Warkbay pour tourner pour aller à Gelbrecé. Et bien là au tournant, ils attendaient les Noirs qui venaient chez nous pour demander s'ils avaient la permission, etc. Et voir le camion, etc. Alors, énervé, le Noir a tiré en l'air. Alors, ça a été toute une histoire. Je crois même qu'ils l'ont fini par l'arrêter, à le mettre en prison. Un moment, je ne sais plus. C'était des gens, les premiers, on les appelait les gasolines, parce qu'ils géraient justement des dépôts de carburant. C'est ça, c'était leur chose. Et il y en avait un, au départ, c'était à la plaine Saint-Nicolas qu'ils étaient, et puis après, du côté de Annu. Enfin, voilà. Et alors, chaque fois que mes sœurs, parce que j'avais, à ce moment, donc, une sœur était née en 22, et l'autre en 24, donc, hein, passaient devant le mess des officiers, elle se faisait vraiment injurier, vraiment grossièrement, quoi. Hein. En traitant fucking girl de tous nos oiseaux. Oui. Parce que les Noirs venaient chez nous. Rien que ça, oui. C'est sûr que les Noirs venaient aussi pour mes sœurs, quoi. Hein. Enfin, comme je veux dire, hein, c'était. Voilà. On a vécu ça très, très fort, je dois dire. On ne se rendait pas compte, naturellement. Hein. On n'avait pas d'informations, nous autres, à ce moment-là, de ce qui se passait en Amérique, exactement. Cette chose qui continue encore maintenant, comme on peut voir. Hein, oui.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qui a été la Seconde Guerre mondiale ?
Qu'on doit absolument se former et se dire qu'on ne peut absolument pas abandonner son esprit critique, que c'est une condition sine qua non de ne plus recommencer à se laisser embrigader par des idéologies qui mènent à des catastrophes comme on a connu. Je dis ça parce que nous étions une famille catholique, nous sommes toujours. Vous savez, mes parents étaient abonnés à un journal qui s'appelait « Le XXe siècle ». Quand Léon Degrelle a commencé son mouvement, eh bien, mes sœurs et mes frères étaient tout à fait d'accord avec lui. Tout ça, naturellement, bien avant que ça tourne mal, comme je dis, hein. Parce qu'il avait l'air de défendre des valeurs. On trouvait que Léon Degrelle, moi j'allais avec eux, je portais le seau avec la chaux pour aller chauler Rex Vaincra, quoi. Hein. Bon, voilà. Par après, au fait, heureusement que ici on a eu en Belgique le cardinal Van Rooy qui a, à un moment donné, a mis en garde tous les catholiques en disant, écoutez, là, bon, c'est plus... il faut faire vraiment très attention, ça tourne mal chez Léon Degrelle, quoi. Alors là, même dans notre famille, ça a été fini, quoi, hein, de choses. Mais que je veux dire, voilà. Là, je crois que l'éducation et l'école, surtout, ont un rôle essentiel à jouer à ce point de vue-là.